Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première, pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e Art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e épisode du Comex de la saison. Un 24e épisode que vous aurez donc peut-être l'opportunité d'écouter quelques heures avant les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un format de la Ligue des Champions qui changera l'an prochain d'ailleurs avec la nouvelle formule à 36 équipes proposée par l'UEFA. Une nouvelle formule qui devra renforcer encore la légitimité de l'instance européenne, notamment dans son duel avec une potentielle Super Ligue dissidente. Et oui, la nécessité de renforcer le monopole de l'UEFA, c'est en tout cas l'avis de Pierre Rondeau, expert en économie, qui estime que renforcer le monopole de l'UEFA permettrait aussi de renforcer les mécanismes de solidarité et de redistribution et permettrait de soutenir l'idée de discrimination positive, toutes ces idées étant nécessaires pour proposer une alternative viable au projet Super League. Cet avis est en tout cas expliqué dans la nouvelle rubrique de la revue de l'After nommée Unpopular Opinion qui, comme son nom l'indique, propose des points de vue originaux sur des sujets complexes. La revue de l'After qui est donc partenaire de ce podcast et que vous pouvez retrouver dans vos kiosques et marchands de journaux et sur le site lafter.media sur lequel vous pouvez vous abonner pour recevoir les 6 revues annuelles. Foncez vous abonner, c'est un conseil 11e art. Passons désormais à notre sujet du jour. Puisque ce dimanche soir, Lyonnais et Brestois nous ont offert un match comme on en voit peu dans une saison de football. Préparation tactique aboutie, justesse technique, un stade comble échauffé à blanc, des rebondissements de l'intensité des frappes de loin, des contre-attaques limpides, de la dramaturgie, de la tension, mais aussi des erreurs d'arbitrage et technique et quelques échauffourées. Tout était donc réuni hier soir pour que de jeunes enfants prostrés devant leur télé ou blottis contre leur radio, cachés sous leur oreiller, se prennent de passion pour notre sport qu'est le football. Car oui, c'est bien à cet âge-là que se crée cette passion. Dans notre deuxième épisode du Comex de la saison, dédié à l'équipe de France, tu citais Thibaut les travaux de l'auteur espagnol Javier Marías et son concept de récupération hebdomadaire de l'enfance par le football. Cette partie de notre enfance qui sommeillerait en nous et que le football ferait rejaillir chaque semaine à travers les émotions et les souvenirs. Mais alors, d'où viennent ces émotions et pourquoi aimons-nous tant le football? Un des premiers éléments de réponse pourrait résider dans la simplicité de ses règles. Deux équipes de 11 joueurs qui s'affrontent pour marquer le plus de buts possible en envoyant le ballon dans les cages adverses. Simple, efficace et donc résumable en une phrase. Pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre le football et ses règles. Une simplicité dont découle une certaine universalité. D'après la FIFA, 265 millions de personnes jouent au football aujourd'hui dans le monde. Un chiffre très largement minimisé puisqu'il ne représenterait que les joueurs inscrits dans des clubs référencés et ne prend donc pas en compte les 4 milliards de fans de football à travers la planète qui ont probablement déjà joué au foot une fois dans leur vie. Que ce soit sur herbe, sur terre ou sur sable, à 3, à 5, à 7 ou à 11, avec des véritables cages ou de simples manteaux ou cailloux posés à même le sol, le football est donc praticable partout, tout le temps, et c'est bien là une raison supplémentaire de l'aimer. Une simplicité au niveau des règles et de la pratique amateur qui contraste d'ailleurs avec une extrême complexité tactique au niveau professionnel. Dans un monde ultra professionnalisé, le football et ses plus grands maîtres tactiques proposent désormais une infinité d'approches. Les différents systèmes de jeu, les animations, les différents profils de joueurs, la polyvalence de certains autres. Ajoutez à cela l'incertitude générale du sport, les éléments extérieurs au jeu comme l'arbitrage ou la pression du public. Et vous avez là une source de divertissement infini que les spécialistes en tout genre et créateurs de contenu s'affairent à décortiquer et à en débattre. Le débat, c'est peut-être là aussi l'une des raisons qui rend le football si attractif. Les émissions d'opinion sont celles qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, que ce soit en radio, en télé et sur les réseaux sociaux. Le défouloir émotionnel qu'était le stade s'est désormais déplacé jusque dans nos écrans de télévision et de téléphone, où chacun est devenu libre de donner son avis et sa contribution au débat, même si celle-ci est parfois souvent limitée. Enfin, n'oublions pas non plus la question de l'identification au territoire, rabâchée en permanence par les supporters les plus influents, mais dans lesquels de nombreux fans lambda se reconnaissent et à travers lesquels ils vibrent de leur passion. Voilà donc une liste non exhaustive d'éléments permettant de comprendre la passion que génère le football chez certains. Néanmoins, nul doute que nos membres du COMEX sauront approfondir et ou compléter cette liste pour nous permettre de répondre de manière tout à fait complète à notre sujet du jour. Pourquoi aime-t-on le football ? Lui, à cette question, il répondra probablement qu'il aime le football pour ses supporters et ses études sociologiques. Mesdames et messieurs, Monsieur Thibault Leplat est avec nous ce soir.
Oui, oui, surtout la sociologie. Ouais. Surtout la sociologie.
Oui. Et les ultras, non ?
Les ultras. Ouais. Vite, une commission.
Voilà.
Vite.
Voilà. Lui, la seule raison pour laquelle il aime le football, c'est que ça lui offre la possibilité de décortiquer des comptes de résultats de clubs anglais de 4e division pour ensuite transformer le tout en carrière football manager. La forme, David ?
Parfaitement, ça va très bien. Et sache que en 4e division, il y a Wrexham qui vient de monter en Ligue 1 et qui a une stratégie économique absolument remarquable que j'aurai peut-être l'occasion de mettre en valeur dans ce podcast.
Avec Ryan Reynolds, c'est ça ?
Et Rob McElhenney. Et ils ont des sponsors du calibre de United Airlines, donc forcément en 4e division anglaise, ça peut faire une petite différence.
Sa plume et ses références culturelles, et tout particulièrement musicales, font à coup sûr partie des raisons pour lesquelles nous aimons tant le football. Très heureux de t'avoir une nouvelle fois avec nous ce soir, Shérif.
Bonsoir tout le monde, content d'être là, parmi vous.
Et enfin, Ferrar, il ne sera pas le doyen de la bande ce soir, mais ça n'empêchera pas de mettre son expérience au service du COMEX pour la première fois de sa carrière. Alexandre Benyania est avec nous ce soir. Comment ça va, Alex ?
Ben, très bien, très bien. Petite émotion hein, d'être là. Et c'est vrai que ça fait plaisir pour une fois de ne pas se faire traiter de papy pour être accueilli.
Pas trop de pression de remplacer Flo comme ça
Si, évidemment, mais on va donner le change. Ouais, essayer en tout cas.
Et la place peut être prise. Hein, t'sais. Moi, on n'a aucun scrupule à dégager Flo si t'es meilleur. Sache-le.
Vraiment, il y aura aucun.
Déjà, le micro est meilleur. Donc déjà, c'est...
Déjà, le micro est branché dès l'arrivée d'Alex sur le podcast.
Le fond d'écran est meilleur aussi.
Ah, j'ai essayé de comex. Faire une petite compo de cadre, mais ça, c'est.
Beaucoup plus comex. Beaucoup
petit
plus
côté audiovisuel, quoi.
Bon, bah, sois le bienvenu, Alex. On te retrouvera évidemment pour ta revue de presse tout à l'heure, à la mi-temps de l'émission. Amis auditeurs, avant qu'on commence cette émission, je vous invite évidemment à liker, à partager, à mettre des petites étoiles, à mettre des petits pouces, à les commenter nos différents épisodes, que ce soit du COMEX ou de 11e art de manière générale, sur les différentes plateformes et sur les réseaux sociaux. Et si vous le pouvez, évidemment, faire des petits dons sur notre cagnotte Hello Asso pour pouvoir faire vivre ce podcast et ce média de manière générale. Pourquoi aimons-nous le football ? Quand on parle d'amour, on donne évidemment en priorité la parole à Monsieur Thibault Leplat, qui est évidemment un spécialiste.
Pourquoi aime-t-on le football ? Alors, c'est une question que j'ai envie de découper en deux parties. Alors, je suis philosophe de service, donc je vais faire le philosophe de service. Quand vous avez un sujet, par exemple, les élèves de terminale qui nous écoutent, il doit bien y en avoir quelques jeunes quand même. Quand vous avez un sujet de philo qui commence par pourquoi, il faut toujours s'interroger à la fonction de ce pronom interrogatif. Pourquoi, ça veut dire quoi ? Pourquoi aime-t-on le football ? D'abord, pourquoi, c'est la question qu'on pose quand pourquoi tu as fait quelque chose, non ? Pourquoi tu as fait ça ? C'est-à-dire la question des causes. Des causes qui entraînent des effets. Pourquoi aime-t-on le football ? Il faut donc se poser la question de l'origine. C'est la question de l'origine de notre goût pour le football. D'où vient-il ? Quelle forme prend-il ? L'origine peut être à la fois une origine personnelle, donc là c'est la question de l'enfance, tu as parlé tout à l'heure de Javier Maria, ce qui évoque la récupération hebdomadaire de l'enfance dans le football. Donc le football serait, pourquoi on aime le football ? On aimerait le football par imprégnation depuis l'enfance, par expérience personnelle, par fidélité, par loyauté personnelle à l'égard de club, à l'égard d'équipe, à l'égard d'un sport. Dans mon cas, moi j'ai démarré très tôt, moi c'est de la loyauté plus à l'égard du terrain plus que les clubs. Chacun a un peu son histoire, mais n'importe quel amateur de football, si on lui pose cette question, la première chose qu'il répondra, c'est qu'il l'est depuis tout petit. C'est très rare les gens qui ont découvert le football à 15 ans, 16 ans, 18 ans, et 20 ans c'est même trop tard. hein, quand on aime le football, c'est quelque chose qui t'accompagne toute ta vie. Et donc, par essence même, dans le goût du football, il y a cette omniprésence de l'enfance. Ça, c'est quelque chose qui est premier point de pourquoi, la question presque causale, d'où vient l'origine chronologique même du goût pour le football. Deuxième élément, toujours dans la question des causes, qui est la question de l'origine. Et là, cette fois-ci, c'est plus ce qu'on va appeler l'origine type milieu, l'origine sociale, sociologique. On va expliquer le goût du football à travers le milieu dans lequel on évoluait. Alors, tantôt dans un milieu populaire, souvent c'est un peu le conte que racontent tous les footballeurs. Je viens d'un milieu populaire, on avait qu'un ballon, c'est l'histoire de tous les footballeurs. On avait qu'un ballon pour s'amuser, donc on allait jouer en bas, et le football, mon amour du football vient en fait aussi d'une condition sociale qui me détermine indépendamment de ma volonté, c'est-à-dire le football étant le sport gratuit par excellence, le sport populaire par excellence, moi étant issu d'un milieu populaire, j'ai donc pratiqué le football. Donc c'est quelque chose qui est une autre forme de déterminisme. Au premier déterminisme, qui était le déterminisme de l'enfance, qui s'imposait à moi. Le déterminisme, c'est ce qui s'impose à moi. C'est ce qui s'impose par-dessus ma volonté, si je puis dire. C'est quelque chose, tous les éléments qui s'imposent à ma volonté. Donc tantôt l'enfance, tantôt le milieu social. Donc ça, on voit bien que, par exemple, les études sociologiques s'intéressent beaucoup à ça. L'origine des... Alors, souvent, malheureusement, du supporterisme, enfin, du supporterisme en particulier du mouvement ultra, on dit sous forme de boutade, mais c'est qui réduit généralement l'activité ultra à son origine, l'origine sociale, économique, culturelle. Pareil pour le football, on va analyser l'amateur du football exclusivement au regard de son pouvoir d'achat, éventuellement, sur la question des CSP, ou alors c'est de son origine géographique, sociale et autres. Donc le football est analysé dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a le point commun entre ces deux versants de la première analyse? C'est l'idée que le football, le goût du football est quelque chose que je ne domine pas, et quelque chose qui s'impose à moi. Ce qu'on appelle en philosophie donc le déterminisme. Il y aurait donc un déterminisme du football, quelque chose qui s'imposerait à moi, que je raconterais librement, mais dont je ne serais absolument pas libre. D'ailleurs, on connaît bien la phrase célèbre, on peut changer de tout sauf de club de football, précisément parce que comme on ne peut pas changer d'identité. Hein. Alors, on pourrait, si on tenait Xavier Dupont de Ligonnès, et encore, mais on ne peut pas véritablement changer de club de football. Je renvoie au film célèbre du bouquin de Sakiri, et l'adaptation du bouquin de Sakiri, Shérif, aide-moi. C'est pas Abre los ojos, c'est Abre los ojos. Je sais pas comment c'est en français. Oui, mais dans Nick Hornby, oui. Lui, c'est la version ultra, mais la version dans Abre los ojos avec Ricardo Darín. Vous voyez ce film?
On va retrouver.
Où le policier retrouve la trace du tueur grâce, justement, il prononce cette phrase-là en disant, écoutez, on peut changer tout dans la vie, sauf changer d'équipe de football. Et il se rend compte, en fait, que le tueur en question est un fan de San Lorenzo. Pourquoi? Précisément parce que c'est ce qu'on ne peut pas changer, et ce qui est donc un signe de reconnaissance. Le football, le club, est un signe de reconnaissance. Si tu es amateur du Red Star, c'est quelque chose, ça dit quelque chose sur une partie de son identité. Voilà, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Toi, ça va être Bordeaux pour plein de raisons. Voilà. Le football comme déterminisme. Deuxième analyse et le deuxième sens du pourquoi, cette fois-ci, c'est plus la question de la cause. On peut aussi retourner le problème en se disant pourquoi, c'est en vue de quoi. En vue de quoi on aime le football, le pour plus loin quoi, c'est-à-dire pourquoi aime-t-on le football? J'avais envie de dire presque dans la question quand même. Pourquoi est-ce qu'on aime quand même le football? Pourquoi est-ce que malgré tout, on aime le football? Ce qui est un peu sous-entendu dans cette question-là, pourquoi aime-t-on le football? Si on se pose la question, c'est que ça ne va pas de soi. C'est que précisément, compte tenu du contexte économique, compte tenu des mœurs douteuses de beaucoup de nos joueurs admirés, de nos héros, du monde des agents, de la médiocrité ambiante de la Ligue 1, de la bêtise des supporters, de la cupidité des dirigeants, de la cupidité des joueurs, malgré la détresse que peut générer un match de football, malgré finalement le temps d'exaltation et de joie finalement minime quand tu es supporter, qui est bien inférieur en tout cas au temps de la déception et de l'accumulation de défaites, l'accumulation de déceptions, comment en dépit de tout ça, on aime malgré tout le football? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui nous retient? Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, alors on pourrait dire effectivement, il y a les premiers déterminants qu'on en parlait tout à l'heure, les déterministes qui sont l'origine sociale et le lien à l'enfance, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même, une manière de voir un peu plus loin que sa propre condition? Exemple, dans le cadre, par exemple, tu parles du Red Star, où on peut parler du envie de quoi, toujours de football. Pourquoi est-ce que le football est malgré tout un objet pour certains de lutte, de combat? Je pense notamment aux amis des Cahiers du Foot, je pense à SoFoot en partie, je pense aux amateurs de défenseurs du football populaire, je pense à Althusser qui en parlait dans les années 80, l'idée que je pense à Michéa, pour ces gens, le football est un terrain de lutte, j'allais dire, parallèle à la société réelle. Et cette fois-ci, le goût du football, ça devient le goût d'une utopie possible. Et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre dans le football, parce qu'il y a un monde à part. On voit bien quand on rentre dans cet univers-là, il faut en maîtriser les codes, les signes, les héros, la grammaire particulière. C'est bien un monde en soi qui est connecté certes au monde extérieur, mais qui a son propre écosystème, qui a ses propres luttes. On voit bien que c'est un débat de connaisseurs quand on se demande si un jour on arrive dans une discussion et quelqu'un arrive et dit quand est-ce que Kylian Mbappé va signer au FC Barcelone. Les gens vont s'arrêter et vont rire. On va dire non. C'est précisément parce qu'il y a tellement de codes, tellement de signes reconnaissants, de reconnaissables, que le moindre impair, la moindre gaffe soulignera l'étrangeté en fait, de la personne qui la prononcera. Donc, pourquoi je veux dire ça? Je vais essayer d'être un peu plus simple et plus rapide. C'est qu'il y a dans le goût du football quelque chose d'autre, à mon sens, que purement la question de la cause. Et c'est ce que moi, je reproche beaucoup, notamment aux sociologues, c'est de rabattre la question du goût sur la question de l'origine. Or, il y a dans le football, on le voit dans la question politique, je viens de l'aborder, mais aussi même la question purement existentielle, il y a une valeur dans le football qui dépasse purement la question des origines, qui, à mon sens, est la question des horizons et la question du « en vue de quoi j'ai envie de suivre ça ». Il y a quelque chose de l'utopie, on l'a vu en matière politique, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du projet individuel et peut-être, à mon sens, un goût de l'aventure. Et c'est là-dessus que je voulais terminer, c'est que je crois que ce qui ressemble le plus à ce qui était, en quelque sorte, un peu, hein, on peut le comparer à la tragédie, ce qui ressemble le plus à l'épopée médiévale, aux épopées qu'on se racontait, que les ménestrels racontaient de ville en ville, jusqu'à l'Antiquité, on peut remonter à Homère et même avant, il y a quelque chose de l'ordre du récit. Et je crois que le football, quand on suit une saison, c'est-à-dire on suit vraiment un rite complet, une histoire complète qui va se répéter toujours quasiment au même, mais toujours avec des éléments différents. Un peu comme on raconterait la même histoire, mais à chaque fois avec un nouvel accessoire, avec un nouveau personnage. Et donc, il y a dans le football, dans notre goût pour le football, et en tout cas pour le mien, ça je veux parler de moi, c'est je crois qu'il y a une aspiration à une dimension héroïque. Il y a une aspiration à quelque chose de l'ordre de l'aventure. Et je crois que quand on, c'est d'ailleurs le terme qu'on emploie souvent quand on parle des compétitions, l'aventure européenne, l'aventure de tel club, l'épopée, le vocabulaire qu'on emploie est un vocabulaire épique. Précisément parce que l'épopée a une valeur pour l'individu, une valeur initiatique, c'est-à-dire c'est dans l'épopée que je vais trouver ma valeur, que je vais affronter des obstacles, que je vais affronter des adversaires, et c'est grâce à cet affrontement, grâce à ces obstacles que je vais dépasser, que je vais enfin me révéler à moi-même. Donc il y a dans cet amour du football, cette volonté de se révéler à soi, de cette volonté de découvrir ce qu'on avait déjà caché mais qu'on ignorait, et qui est à mon sens l'horizon héroïque de l'existence.
Merci beaucoup Thibaut. Tu parlais justement du football comme milieu de connaisseurs, et je crois que David, tu voulais prendre en quelque sorte le contre-pied de cet argument-là.
Absolument, et d'ailleurs en parlant d'épopée, je suis ravi que Thibaut fasse référence à mon aventure Football Manager avec Axel Ford, qui colle absolument à sa dernière partie concernant l'épopée, mais mot pour mot, le sens, le goût de l'aventure. Donc voilà. Non,
toi
mais...
aussi t'es substituable, hein, fais gaffe.
Comment?
Toi aussi, on peut te remplacer.
Absolument.
Mais lui, on va le remplacer par ChatGPT, aussi une intelligence artificielle, ouais, qui révélera tous les tableaux et tout ça.
Ouais, c'est ça.
Non, mais en parlant de déterminisme, moi, je veux justement en fait me focaliser sur un déterminisme. C'est essentiellement le déterminisme géographique. Et prendre le contre-pied d'un slogan, d'une mouvance ou d'une idée reçue essentiellement diffusée par les supporters ultra autour donc d'un motto, comme disent les Anglais, c'est support your local team, donc supporter votre équipe locale, c'est-à-dire que géographiquement la plus proche de vous, comme une injonction, comme si c'était blasphématoire de supporter une autre équipe que celle qui est kilométriquement la plus proche ou la plus rapprochée. Alors, en tant que déraciné un peu footballistique, parce que moi, mon amour des Girondins de Bordeaux, c'est par pur atavisme familial, sans faire preuve d'impudeur. Moi, j'avais un papa qui est parti, qui était âgé. Je savais que je ne le garderais pas longtemps. Et en fait, comme il était supporter des Girondins de Bordeaux, une des seules choses qui pouvait me relier à lui, et une des rares zones d'échange, c'était d'être supporter, moi aussi, des Girondins de Bordeaux. J'aimais déjà le foot, passionnément. Mais quand on a un papa qui a quasiment 50 ans de plus que soi, qu'on grandit dans les années 80, les zones d'accroche sont moindres. Donc voilà. Donc moi, je vais effectuer cette présentation en tant que déraciné, puisque j'ai grandi, comme vous le faites subtilement rappelé, en Picardie. Donc voilà. Et il y a plusieurs... et cette idée... cette injonction à supporter l'équipe locale est discutable, voire ridicule sur bien des points. Moi, j'en ai distingué 6. Le premier, c'est que nous ne sommes pas égaux géographiquement devant le football. Je suis un homme de chiffres, vous le savez. Je vais vous égrener le nombre de clubs professionnels par kilomètre dans les 5 grands championnats. J'ai été gentil, j'ai inclus la France. En France, il y a un club professionnel tous les 117 kilomètres. En Angleterre, il y a un club professionnel tous les 51 km. En Italie, il y a un club professionnel tous les 50 km. En Allemagne, tous les 64. Et en Espagne, tous les 110. Donc, en France, nous avons des déserts footballistiques professionnels de la même façon qu'on a des déserts médicaux. Donc, supporter son équipe locale ou l'équipe la plus géographiquement proche, c'est déjà très difficile. Quand tu grandis en baie de Somme, à part supporter Amiens, et encore, il fallait qu'Amiens soit professionnel, tu es quand même dans une zone qui est footballistiquement, entre guillemets, sinistrée.
Jusqu'à Idem, l'Oise, hein. L'Oise, c'était pareil. Hein.
L'Oise, c'était pareil. Tu avais la SBO qui était en
D2 division. De temps en temps. Quoi.
Exactement. Était en D2 essentiellement quand il y avait deux groupes, quand il y avait deux poules. Donc, ce qui était considéré comme du professionnalisme et du professionnalisme un peu à papa. Ensuite, c'est régulièrement hypocrite parce que pour parler ou avoir échangé avec ceux qui t'enjoignent à supporter ton équipe locale, généralement, ils ont eux-mêmes ont choisi la plus forte des équipes locales. Moi, j'ai absolument jamais rencontré des supporters d'Istres, par exemple. J'ai rencontré très peu de supporters de Libourne ou très peu de supporters de Niort. Pourtant, c'est des équipes qui ont connu le professionnalisme. Par contre, des supporters de Bordeaux, des supporters de Marseille, j'en ai connu plein. Je suis régulièrement allé à Duvauchel, à Créteil, mais pas foule, même quand l'équipe jouait les premiers rôles en deuxième division. Donc, c'est une injonction qui ne s'applique même pas à eux-mêmes. Ensuite, c'est anachronique dans le sens où, par rapport à l'accès à l'information footballistique, au match, à la présentation, à l'histoire, même si les gens s'en fichent un peu, au débat, aux images d'archives. C'est impossible de se réduire intellectuellement à supporter son équipe locale. Il y a tellement d'opportunités de tomber amoureux d'une équipe désormais. Et on le voit aussi en suivant tous les comptes Twitter. Je ne suis pas sûr que Antoine Latran soit né en étant supporter de DC United, que les gars de Lucarne Opposée, en fait, soient nés à Montevideo, à Asuncion, que Contre-Pied, que je salue d'ailleurs, qui est quelqu'un en fait de très qualitatif sur Twitter, soit né dans le Sussex à côté de Brighton, que Paulo Breitner, en fait, soit né à Duisbourg. Si tu veux, ou que Johan Crochet soit né à Livourne. C'est des gens qui ont su picorer, qui ont su s'informer et qui sont tombés amoureux ailleurs que dans leur rue. Parce que moi, ça me fait un peu penser à un mariage forcé, en fait, si tu veux, cette injonction de supporter ton équipe locale. Et ensuite, d'un point de vue français, c'est faire fi de la centralisation footballistique historique, et peut-être que Chérif pourra en parler, qui est inhérente au football français. Car on a toujours été, et j'ai lu ton article, Chérif, un football de nation. Ça, tu as raison. Et surtout qu'on a très, 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 voire jamais eu plus d'une équipe que ce soit Reims dans les années 50, Saint-Étienne dans les années 70, l'OM dans les années 90, que ce soit l'OL dans les années 2000 ou le PSG dans les années 2010. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va plus facilement, quand on est petit, surtout quand on doit s'affirmer socialement au sein d'un groupe, suivre les vainqueurs. Mais dans la mesure où on n'avait souvent qu'une équipe performante en même temps, il y a une espèce de centralisation footballistique autour d'une équipe à travers les époques. Et ensuite, pour finir, moi, ce qui me dérange dans ce support sur local team que je trouve, vous l'avez compris, parfaitement stupide, c'est que ça annihile la notion de transmission. Et dans le football, la transmission, c'est ce qu'il y a, je l'ai dit en préambule, de plus beau. Ça peut garder des familles ensemble, ça peut rapprocher un père et son fils, ça peut rapprocher un père et son grand-père, ça peut créer des amitiés, ça peut créer des inimitiés aussi, parce qu'on peut se créer en opposition. Mais c'est Daniel qui, lorsqu'un auditeur, et je m'en souviens très bien, Daniel Riolo, avait dit, un auditeur de l'After, qui avait dit, je ne sais pas s'il était provocateur ou pas, il dit, mais moi je supporte le Barça, et avant je supportais le Real, mais j'aime Liverpool aussi cette année. Et il a eu une réflexion très juste, avec ce ton un peu bravache et provocateur qu'on lui connaît. Il a dit, mais il fait quoi ton père? Il a fait quoi ton père? C'était quoi son travail en fait à ton père? Mais ton père, il a complètement raté ton éducation. Et c'était provocateur. Mais quelque part, c'est un peu vrai en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire la transmission à une transmission territoriale. Le foot, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a bien plus d'éléments à transmettre. Et c'est pour ça... Et c'est essentiellement pour ça, et je finis par cela, que réduire l'amour footballistique ou d'une équipe à un territoire, ça me paraît archaïque, voire dangereux.
Merci beaucoup, David. Et toi, Shérif, tu voulais prendre le contre-pied en parlant un petit peu de football total, si j'ai bien compris.
Non, de spectacle total.
De spectacle total, pardon.
Spectacle total, ouais, football total.
Je te laisse développer, oui.
Non, je disais que bon, l'amour du foot, il a été bien, il a bien été résumé par Thibaut au départ. L'enfance, le rectangle vert, les clameurs du public, la première fois au stade, le premier but avec le ballon qui reste bien dans les filets, bon, tous ces trucs-là, on connaît tous. Après, bon, bah, la passion, elle est enracinée, elle reste à vie, je pense. On change pas de sport a priori, même si on peut faire des infidélités avec des sports plus individuels, je pense au tennis en particulier. Mais donc voilà, pour ce qui est de la naissance de la passion foot, je crois qu'elle est bien connue, elle est bien explicite, elle est bien racontée. Alors moi, je parle de spectacle total. C'est en gros, c'est comment moi, en évoluant dans ma vie, en vieillissant, en prenant de l'âge, je suis toujours resté fidèle au foot. Qu'est-ce qui me rattache encore au foot, en fait? C'est tout simplement que ça me permet d'avoir, et je suis pas le seul, je pense pas, ça me permet d'avoir un ancrage rationnel sur la réalité. On ne connaît pas le sens de la vie, on ne l'apprendra jamais. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On vit dans un chaos permanent d'informations, d'événements qui nous dépassent. Par contre, on a quelque chose, on a un point fixe, c'est ben, les résultats du vendredi soir, du samedi soir, du dimanche soir. Et éventuellement, Coupe d'Europe, le mardi, le mercredi soir. Le foot, c'est très simple. Il y a une immédiateté du résultat qui s'impose à nous. Je me mets à la place des ministres qui font des projections sur l'avenir dans n'importe quel domaine, économique, financier, service public et tout. On verra jamais le bout, on saura jamais si les politiques qu'ils ont lancées, elles aboutiront ou pas. Par contre, le football, je sais qu'il y a l'Euro du 15 juin au 15 juillet, et le 15 juillet au soir, on saura tous qui est champion d'Europe.
14 juillet précisément, pour le défilé sur les Champs-Élysées.
Malgré tout, il y a une incertitude. Donc, c'est un peu le sel de la vie. Il faut se projeter, il faut être patient. Il y a une incertitude et, qui s'apparente un peu au chaos, à l'insécurité. Mais la magie du football, c'est qu'elle nous aide à rationaliser après coup. C'est-à-dire que je ne sais pas, moi, qui sera champion d'Europe, a priori, Mais une fois que le champion d'Europe sera désigné, que ce soit la France, l'Allemagne, j'en sais pas, l'Angleterre, on l'avait pas prévu, mais on baigne tellement dedans dans le football depuis des années, qu'on arrivera quand même à rationaliser. Alors ce sera après coup, parce qu'on peut pas prévoir, sauf vraiment les devins qui nous disent avec certitude qui gagnera l'Euro. Et c'est cette part d'incertitude, mais qu'on finira par maîtriser. C'est ça qui nous sécurise, c'est ça qui nous encore, qui fait qu'on aime encore le football, qu'il y a une part de mystère, qu'il y a une part d'irrationnel, on l'accepte, on ne la maîtrise pas, on n'a personne à vu venir la remontada barcelonaise. Mais rappelez-vous qu'après coup, on a quand même réussi à trouver des explications. Et ces explications, pour expliquer l'irrationnel, c'est quelque chose qui nous rassure. En plus, surtout si on a des points de vue qu'on peut partager. Alors, je parlais de spectacle total parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines activités humaines qui commencent comme elles commencent, elles tâtonnent un peu, elles arrivent à maturité et après, elles arrivent à une certaine forme de perfection. Alors, je ne dis pas la perfection, mais une forme de perfection. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on regarde la Ligue des Champions, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un spectacle parfait. C'est-à-dire qu'on avait une incertitude, évidemment, au début, on ne savait pas, avant, au moment du tirage, qui allait gagner et tout. Mais après les matchs, on avait notre explication, on est retourné dans la rationalité, même si c'est après coup. Et au niveau du spectacle, c'est exactement comme on s'y attendait. C'est-à-dire, on attendait un grand match entre Manchester City et le Real. On a eu un grand match parce que les grands joueurs font les grands matchs. On a eu des super buts. J'insiste encore sur une chose. Au moment où l'arbitrage est très décrié, je trouve que en Ligue des Champions, l'arbitrage est parfait. Alors évidemment, c'est pas du 100%, mais pour moi, on n'a pas besoin de la VAR. Je suis toujours été un peu un opposant à la VAR, même si je reconnais qu'il y a eu des progrès. On arrive à ce spectacle total qui est pratiquement une forme de perfection dans les gestes, parce que le but de Foden, c'est une perfection, c'est comment le but est emmené sur le côté droit, comment le mec se recentre, il frappe, et évidemment, là, en pleine lucarne, le goal n'est pas mauvais, hein, il fait une bonne extension, il y a le public qui se lève, il y a toute une ferveur, et on est dans notre élément. On ne sait pas comment le match va finir, on ne savait pas que ça allait finir à 3-3, mais on est dans cette forme de sécurité, qui fait que dans le chaos de notre vie, on garde un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, je le retrouve régulièrement le week-end et puis évidemment en milieu de semaine. Et pour peu qu'on ne fasse pas de boulimie, d'indigestion de football, on arrive encore à apprécier le spectacle, qui reste un spectacle total, comme la NBA est devenue un spectacle total. La NBA, c'est comme un peu le foot européen, ça concentre tous les meilleurs talents du monde. Moi, je suis fasciné. J'ai fini par comprendre en fait la démarche de Lobanovsky. Lobanovsky disait que lui, évidemment, il était dans son élément. C'était un entraîneur de football. Et il disait que lui, il s'était inspiré, comme les grands entraîneurs, hein, s'inspirent d'autres disciplines, à la fois du Bolshoï et du Cirque de Moscou. Et J'avais compris, mais je m'interrogeais et tout. Et en fait, j'ai compris en fait ce qu'il recherchait à travers l'excellence du Bolshoï et du Cirque de Moscou. C'est en fait une recherche de la perfection. Alors évidemment, en football, c'est pour y parvenir. Mais par moments, il y est parvenu. Moi, je me rappelle du Dynamo Kiev 86. C'est une épiphanie. En plus, je tombais par hasard. Le match était un vendredi soir. On était encore, pour moi, dans le tâtonnement. Maintenant, on est dans la forme de perfection. C'est-à-dire, on attend des grandes compétitions qui, en général, tiennent leurs promesses. Évidemment, il y a des matchs bidons. Un euro à 24 équipes, ça, quelque part, ça n'a plus aucun sens. Mais cette idée de voir pratiquement maintenant, et ça risque de s'améliorer un peu plus tard, on a des grands entraîneurs, on a des grands préparateurs physiques, on a des grands... même la data, hein, elle commence à faire ses preuves. On a des grands footballeurs qui accomplissent les gestes. On mourrait pour les reproduire. Moi, il y a des gestes de Benzema. Enfin, je reviens sur l'exemple du Real. Les gestes, les prises de balles de Benzema et les arrêts de Courtois, c'est quelque chose de... Et voilà, c'est direct, bon, c'est pas gratuit parce que maintenant c'est payant. Je suis pas non plus totalement naïf. Il y a sûrement des substances illicites qui permettent de reproduire sans cesse les efforts parce que, bon, quand même, c'est, j'ai des doutes sur les sportifs qui fonctionnent à l'eau claire. Mais enfin bon, peu importe, le résultat, il est là. Pareil que les grandes équipes se dopaient. Fin de la parenthèse. Et en fait, voilà, on est arrivé à une forme de spectacle total. C'est pour ça, par exemple, c'est ce qui manque encore au football féminin. Alors, ce n'est pas pour comparer le foot féminin, le foot masculin. C'est le football féminin n'est pas encore arrivé à la plénitude, à la plénitude gestuelle, à la plénitude technique. Ça va arriver, hein, j'ai aucun doute. Moi, je pense que le football féminin va progresser très bientôt de façon fulgurante. Et ce n'est pas pour faire, comment dire... pour dénigrer le sport féminin, parce qu'il y a une perfection dans le sport féminin qui s'appelle la gymnastique. Vous regardez, avant une compétition, quand les gymnastes filles s'échauffent, c'est déjà du super haut niveau. Donc, qu'on ne me fasse pas un mauvais procès. Mais en ce qui concerne le football masculin, on arrive à une forme de spectacle total. Des pelouses absolument... c'est des billards. J'ai encore vu Naples-Frosinone ce week-end. Enfin, pas en entier, j'ai vu un résumé. C'est des balais. Le match qu'on a vu aussi hier, il y avait des bonnes actions, des bonnes contre-attaques, des bons mouvements bien décomposés, bien structurés. Et voilà. Et tout ça... Même j'arrive à me satisfaire d'un bon 0-0 ou alors je me rappelle d'un Monaco-Nice en début de saison. J'ai beaucoup apprécié, alors qu'il n'y a eu qu'un but à toute dernière minute.
Deux pénaux arrêtés.
Ouais, deux pénaux arrêtés. Et voilà, puis je regarde un peu ce qui s'est passé ce week-end, par exemple en Première Ligue. On attendait Manchester City qu'ils fassent un carton. Ils ont fait le carton avec 5 buts. Des mouvements sur le côté gauche, sur le côté droit, des gestes et des actions parfaitement structurées. Et d'un autre côté, on a eu encore la surprise de voir Liverpool-Arsenal qui se sont fait battre sur leur terrain. C'est irrationnel, c'était imprévu, mais après coup, et toujours ce besoin de se sentir dans son élément sécurisant, on peut expliquer pourquoi ces deux équipes ont perdu quand même. Donc, ce qui était imprévu, ce qui était totalement pas prévisible avant, bah, ça le devient après. Donc, une fois de plus, dans une existence où on ne connaît pas le sens de la vie, où c'est le chaos permanent, le football reste un élément...
Parle pour toi, chef.
Hein ?
Parle pour toi, chef.
Ouais. Ça reste un élément rassurant et structurant. Dans lequel je me retrouve tous les week-ends, avec des résultats qui tombent toujours à l'heure qu'il faut. Le dimanche soir, tu vois tous les résultats, tu vois tous les classements. No bullshit.
Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Shérif, pour ton intervention. Et je vais laisser donc la main à Alex pour sa première revue de presse. Soyez sympa avec lui, rigolez au moins quand il fait des vannes, s'il vous plaît.
Bah, vous risquez d'être déçu, Val, parce que ça y est, c'est le grand soir. Je crois que j'ai tapé dans l'œil du coach à l'entraînement. J'arrive avec de l'ambition, mais aussi beaucoup de modestie. Et c'est pour ça que je vais m'abstenir de faire une piètre imitation de Flo. Donc désolé, mais pas de vanne au programme. J'espère juste faire une entrée digne d'un Ole Gunnar Solskjaer avec pour objectif la version joueur contre le Bayern plutôt que le retour raté comme coach à Manchester. Et quoi de plus plaisant pour une première d'orienter cette revue de presse sur la notion d'amour mêlée au foot. Je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet et pour compléter ce que racontait Shérif, de poursuivre sur l'un de ses articles qui, bien avant tout le monde, a annoncé que Xabi Alonso devait prolonger au Bayern et a fait ce rêve auquel j'étais le dernier à croire. C'est donc dans ce foot que tu nous expliques pourquoi, alors que la presse l'annonce au Real, à Liverpool et au Bayern, Xavi doit rester. Parce qu'une histoire d'amour, ça s'écrit pas sur une saison. Parce que faire l'impensable, à savoir gagner dès la première année, ça te suffisait pas. Tu estimes déjà qu'il doit nous en donner plus. Que s'arrêter là nous laisserait tous sur notre faim. Finalement, ce que tu veux, c'est qu'ils nous racontent une histoire. Une histoire de fidélité, une histoire qui dure, une histoire qui s'appuie sur des performances, sur une attractivité renforcée avec le titre de champion d'Allemagne et la qualif en Ligue des Champions. Une sorte de coup de foudre, finalement. Et tu vas plus loin, tu te projettes sur la saison prochaine en nous replongeant dans l'Ajax de 2019, cette équipe qui, sans gagner, restera jamais dans l'histoire du beau et qui définit presque à elle seule notre amour à tous pour le foot. Bah, mea culpa de pas t'avoir cru, shérif. Peut-être qu'à 34 ans, je suis déjà complètement désabusé. Peut-être que aussi, j'aurais jamais parié pour une saison de plus de l'Espagnol dans cette merveilleuse, que dis-je, cette magnifique ville qu'est Leverkusen. Mais tu le sais bien, shérif, et vous le savez aussi, Thibaut et David, le foot nous rend parfois un peu triste, voire carrément cynique. La morale n'existe plus, et vous en avez déjà très bien parlé dans un comex que je recommande à tout le monde. Et le cynisme, parlons-en justement, c'est peut-être ça qui m'a fait cliquer sans hésiter sur l'article de d'Eric Frozio, pardon, Neymar, anatomie d'une chute pour France Football est disponible sur l'équipe. J'ai passé toute l'année, bizarrement, à m'embrouiller avec des potes fans du PSG et dingues de Neymar, et je dois reconnaître que j'ai jamais vraiment compris leur attachement pour ce joueur. Comme après avoir lu l'Unpopular Opinion de Jimmy Brown dans la revue de l'After, je gardais cette question dans ma tête, mais pourquoi ils se mentent tous autant? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas ici dans le cœur du sujet, cette oscillation entre la haine et l'amour? Passer d'un Benvindo Neymar sur la Tour Eiffel, façon Jean-Michel Aulas, Val, j'espère que t'auras la ref, à casse-toi Neymar devant sa maison à Bougival, bah ça me laisse un peu pantois. Et il subsiste quand même cette question, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de cet homme pour tout gâcher? Peut-être qu'il est juste bas du front, peut-être que son entourage l'a pas aidé, peut-être que de raisonner uniquement pour les bifetons ça l'a rendu malade. Mais ce qu'on apprend dans cet article, c'est des anecdotes assez troublantes. Celle d'un titulaire du PSG qu'il retrouve en larmes à la mi-temps d'un match dans les toilettes. Celle d'un Neymar dans un état de tension extrême sous le mandat Galtier qui, après avoir perdu le ballon, poursuit le pauvre Ismaël Garbi pour lui mettre une balayette et un coup de tête au sol. Celle d'un joueur qui aura fatigué tout un club, tout un pays. Un joueur gavé de foot, gavé d'argent, gavé de tout et qui aura finalement gavé tout le monde. Alors je sais bien, messieurs, que cet article, vous n'allez pas apprendre des nouvelles sidérantes, mais il me paraît assez essentiel pour décrire cette notion d'ambivalence au sens premier du terme. Ce mélange de haine et d'amour qui sied parfaitement à cet anti-héros et qui dit beaucoup, de notre consommation du football. En fait, on perçoit à travers ces lignes le profil d'un génie connard dépressif qui, pour certains, finit par devenir attachant. Et est-ce que c'est pas là une projection de nos rapports humains? Vous savez, ce sentiment étrange qui fait qu'on s'accroche alors que la raison nous pousse à aller dans l'autre sens. C'est aussi ce que j'ai ressenti en lisant l'article « Un ami pour la vie » de Nicolas Tayana, dans la revue de l'After consacrée aux agents les vrais maîtres du jeu, qui est une revue qu'on recommande évidemment à tout le monde. C'est un portrait du meilleur ami de Bernard Tapie, Lucien Donofrio, qui a toujours préféré l'ombre à la lumière et qui faisait office de mentor pour l'ancien président de l'OM. Bon alors, je vous arrête tout de suite, je suis allé consulter la définition de mentor sur le Larousse. Je me suis arrêté au troisième mot, guide attentif et sage. Ça ne fonctionne pas du tout ici, hein, parce qu'on apprend dans l'article qu'il est à l'origine de l'affaire de la caisse noire de Toulon, un système de paiement occulte sous forme de fausse facture mis sur pied avec le coach de l'époque Roland Courbis, un système qui va notamment permettre à l'OM de recruter Roddy Voller, Rafael Martin Vasquez et à Donofrio évidemment de toucher un joli pourcentage en commission au passage. On apprend également que cet homme de l'ombre, qui est plutôt méconnu du grand public, va faire profiter de ses services à des stars de France 98 comme Zidane, comme Deschamps, qui est toujours là quand ça pue, bizarrement, Barthez, Henry et De Sailly. Et là où il est très fort, le Donofrio, c'est qu'il n'est jamais vraiment en contact officiel avec les joueurs ou les dirigeants. Il a su à chaque fois tirer son épingle du jeu. Comme en 2000, lorsque soucieux d'aider son club de cœur, attention ironie, Bernard Tapie rencontre Robert Louis-Dreyfus grâce à son ami Lucien. Un beau coup de main qui va de nouveau placer Tapie aux affaires pour le plus grand bonheur des supporters marseillais de l'époque. Résultat, 58 mouvements de joueurs en 6 mois à l'OM et des suspicions de surévaluation de transfert entre l'OM et le Standard de Liège, dont l'actionnaire n'est autre que Donofrio. Bref, un excellent article que je recommande à tout le monde, bien plus développé que mon résumé succinct, mais qui nous plonge face à une autre question dans le rapport à l'amour, la vérité, ou plutôt le déni. Est-ce qu'on peut continuer à aimer son club de foot en connaissant la vérité? Comment on continue à aimer son club, son joueur préféré, son coach, et même l'univers médiatique qu'il y a autour? Alors, désolé Thibaut, je répète un peu ce que tu disais, mais c'est des questions qui m'ont vraiment touché en préférant cette revue de presse. Et quand je l'ai écrite au début, je m'étais dit que je voulais commencer par Pirlo, Riquelme, Iniesta, Xavi, Busquets, Valdivia. C'est vraiment les cinq premiers mots que j'ai couchés sur le papier. Et puis, j'ai commencé à lire et j'ai commencé à structurer. Et je voulais aussi parler de Suarez, des garces qui m'ont fait aimer le foot, que je défendrai toute ma vie. Mais finalement, dès que j'y pense, dès que je réfléchis, et là où Thibaut parlait du déterminisme et posait la question du pourquoi, moi, je me demande si j'ai encore le droit d'aimer le football.
Merci beaucoup, Alex. Je me
doutais... Sur autre chose que Flo.
Je me doutais bien qu'en laissant Alex faire une revue de presse, il y aurait une petite part d'émotion à un moment ou à un autre. Sa grande spécialité. Et je me doutais bien aussi que le partenariat avec la revue de l'After serait particulièrement bien mis en avant.
Moi, connaissant j'ai deux questions. C'est comment on fait pour mettre un coup de tête à terre.
C'est là où Neymar dépasse toutes les attentes, quoi. Mais en fait, dans l'article, il y a un côté où il y a un côté dépressif qui sort chez lui, qui est à la fois pathétique et agaçant. Et qui crée ce personnage de héros dont parlait Thibaut tout à l'heure, qui raconte une histoire, mais qui très vite te calme sur tes émotions. Quoi. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cet article dedans, parce que je trouve que ça témoignait bien.
Le pauvre Ismaël Garbi, qui est quand même à Lausanne Ulchi, qui est bon dernier de Super League Suisse. Donc c'est vrai que c'est lui, là. C'est du fromage et dessert, lui. T'es héroïé par Neymar et de Lausanne Ulchi.
T'es terrifiant sur tes connaissances footballistiques, David. Pourquoi aime-t-on le football ? C'est donc le sujet de notre épisode du jour. Messieurs, dans cette première partie, vous avez avancé plusieurs arguments, notamment toi, Thibaut, à la question pourquoi tu donnes deux sens. D'abord, dans un premier temps, la question des causes de l'origine de notre goût. Alors, elle peut être personnelle, et tu parles du retour à l'enfance. Ça peut être aussi des origines avec le milieu social dans lequel on évolue. Par exemple, les milieux populaires, qui sont des termes souvent galvaudés mis en avant par les footballeurs. Donc ces deux raisons pour toi sont deux déterminismes. Donc les déterminismes, c'est ce qui s'impose à soi. Donc on parle de déterminisme du football. Et il y a un deuxième sens au pourquoi, avec les questions en vue de quoi aime-t-on le football ? Pourquoi malgré tout on aime le football ? Tu avances deux réponses. D'abord parce que le football est un terrain de lutte parallèle à la société réelle, et aussi parce que c'est un monde qui a son propre écosystème. Et tu tires une conclusion de ça. Tu estimes que dans le goût du foot, il n'y a pas que la cause justement, et il y a aussi ce deuxième aspect, il y a la question des horizons dans le foot qui dépasse largement les déterminismes de l'origine du goût du football, et qui a une aspiration à une dimension héroïque, à l'aventure, parce que l'aventure a une valeur initiatique où l'individu se révèle aux autres et à lui-même. David, toi, tu te focuses sur un autre déterminisme, le déterminisme géographique, et tu prends le contre-pied de l'idée de dire qu'il faut supporter son équipe locale à travers plusieurs points. D'abord parce que nous ne sommes pas égaux géographiquement. Par exemple, en France, il y a un club pro tous les 120 km. Donc il existe des déserts footballistiques, donc il est parfois impossible de suivre les équipes locales. Tu dis aussi que parfois quand on choisit une équipe locale, on choisit souvent la meilleure équipe. Tu avances aussi qu'avec toute la production de contenu, d'informations, etc. qu'il y a aujourd'hui, c'est impossible de ne pas s'intéresser à d'autres clubs. Tu parles aussi de la question de la centralisation à la française. Et tu dis surtout que le localisme annihile la notion de transmission et qu'on ne peut pas limiter le foot au local puisque c'est dangereux pour cette notion de transmission. Shérif, toi, tu parles de spectacle total. Tu dis que le foot permet d'avoir un ancrage rationnel sur la réalité. On ne connaîtra jamais le sens de la vie, mais on sait qu'on aura les résultats des matchs de foot tous les week-ends. La magie du football nous aide à rationaliser. Même s'il y a une part d'irrationnel, on arrive tout de même à trouver des explications. Et aujourd'hui, il y a un spectacle total, car on arrive à une certaine forme de perfection. Tu reprends l'exemple évidemment du match City-Real de la semaine dernière, puisqu'à tous les niveaux, cette forme de perfection était établie, que ce soit au niveau du jeu, de l'arbitrage, des gestes, du public, de la pelouse. C'est une forme de perfection aboutie. Et tu fais un parallèle justement avec le sport féminin. C'est ce qui manque aujourd'hui peut-être dans le football féminin et qui existe pourtant dans d'autres sports féminins, puisque la gymnastique féminine en est un exemple parfait. Voilà les différents arguments que vous avez avancés dans cette première partie, messieurs. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Je vous laisse débattre de tout ce que vous avez dit. Thibaut.
Ouais, je voulais revenir sur une idée importante qu'a soulevée Shérif et qui me permet de préciser peut-être avec le vocabulaire de ma spécialité qui répondrait à la question effectivement pourquoi aime-t-on le football, cette fois-ci non, ni sur les causes ni sur l'origine, mais cette fois-ci sur l'objet même du football. Qu'est-ce qu'il y a dans le football en lui-même et pas en dehors, parce que pour l'instant on raisonne sur des causes externes, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du football ? Effectivement, c'est un élément que moi j'avais pas abordé et que Shérif a très bien développé, qui est le pourquoi à l'intérieur du football. Je crois qu'il y a un élément précis, que toi tu parles de points d'ancrage, tu parles de reconstruction rétrospective, c'est-à-dire de construction rationnelle rétrospective. En fait, moi, j'avais thématisé ça un jour, j'ai dit ça dans un des bouquins, je ne sais plus où j'ai écrit ça, qui, je crois que s'il fallait réduire en fait, à une définition philosophique du football, ce qui est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire à quoi ça se résume, je crois que ce serait un jeu avec la contingence. C'est-à-dire on joue avec de l'imprévu. Mais la contingence, ce n'est pas exactement l'imprévu. C'est un peu moins que l'imprévu. La contingence, c'est à l'intérieur d'une régularité, parfois, un élément qui diffère. C'est ça, la contingence. C'est le clinamen chez Lucrèce. C'est l'idée que tout est régulier, et puis tout à coup, quelque chose va changer. Et c'est ça qu'on guette dans une compétition. C'est ça qu'on guette dans le football en tant que spectacle. C'est-à-dire que on va voir tout à coup, c'est pareil, mais c'est pas pareil. La répétition du même, mais pas véritablement. Donc il y a l'aspect rituel, peut-être très très important, mais à l'intérieur de ce rituel, quelque chose de contingent, quelque chose va varier. Et c'est, je crois, ce qui fait son attrait principal. Et si tu parles d'un spectacle parfait, effectivement, c'est un spectacle parfait parce que c'est ce que la fiction n'arrivera jamais à faire. Elle tourne autour de cette idée, de l'imprévu sans arrêt, de ce qu'on n'avait pas prévu, ce qu'on n'a pas vu venir, le cliffhanger dans les séries, les retournements, les coups de théâtre, etc. Mais ça reste écrit à l'avance. Là, c'est écrit rétrospectivement. C'est écrit à l'envers. Et donc, quand tu parles de cette idée de reconstruire rationnellement le passé, il y a quelque chose de rassurant, qui est une idée très profonde que tu évoques là. C'est ce que fait l'histoire, en fait, ce que fait la rationalité humaine, et c'est l'énigme de la rationalité humaine. Autant on peut expliquer très bien le passé, on peut trouver un élément de cause. Rappelez-vous des thèmes classiques en histoire, par exemple les causes de la Première Guerre mondiale. Alors on établit des causes, l'attentat des Habsbourg, le jeu des alliances, etc. Mais on est incapable de prévoir l'avenir. On peut pas prendre la causalité, c'est comme le tube de dentifrice. Une fois que c'est sorti, on n'arrive pas à le mettre dans l'autre sens. Et le football joue à ça. C'est un peu moi ma critique de la tactique, c'est ça. Le discours tactique, il est là. Le discours tactique, il reconstruit a posteriori quelque chose qui est d'abord de l'ordre de l'imprévu. Et que quand on le regarde dans l'autre sens, on se dit, et le réflexe, le danger, c'est de s'imaginer que parce qu'on peut le lire rationnellement à l'envers, on peut aussi utiliser cette même rationalité dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'avenir. Et ça, c'est l'excès de prévision, c'est l'aspect prescriptif des datas, et c'est effectivement quelque chose qui va manquer parce que précisément le football a quelque chose de, je crois, sauvage, c'est qu'il résiste malgré tout à l'hyper-prédiction et à l'hyper-rationalité.
Il y en a un de vous deux qui va rebondir là-dessus, Chérif, David ?
Ouais, je vais rebondir en fait de façon assez succincte sur ce que tu dis, Thibaut, c'est que le football est du fait c'est imprévisible parce que il y a peu de buts, mais c'est aussi une école d'humilité en fait, si tu veux. C'est que de par le fait qu'il y ait peu de buts, donc chaque erreur ou chaque exploit a une importance significative sur le résultat, ça fait qu'on se trompe souvent en fait en essayant de prédire. On voit en fait avec tout ce qui est avec toutes ces nouvelles tactiques de contre-pressing, c'est de vite limiter cette imprévisibilité en récupérant rapidement la balle. Surtout ne pas laisser le ballon à l'adversaire. Posséder la balle pour éviter de ne pas encaisser en fait. Et je trouve que ce que j'aime moins dans le football, c'est que c'est vraiment une école d'humilité où pour le comprendre, peut-être pas pour l'anticiper, mais pour l'expliquer, il faut admettre de se tromper. Très souvent, très régulièrement, on peut pas avoir de jugement définitif sur un joueur, sur une équipe, sur une rencontre. Je pense que le match d'hier soir, tu as cité en introduction, Lyon-Brest en est la parfaite illustration. C'est que c'est très facile de faire une analyse a posteriori, mais a priori, c'est un des sports les plus imprévisibles et c'est ce qui fait vraiment son sel. Et si on veut y voir une école d'humilité, je trouve que ça magnifie encore le sport.
Chérif ?
Oui, non, je suis d'accord. En fait, je disais que ça nous permet de rationaliser le chaos. En fait, non, c'est une tentative. Parce qu'évidemment, là, la notion d'humilité, elle arrive. C'est que, bah oui, après coup, on va tenter de rationaliser le chaos parce que justement, on s'est pas mal trompé, que ce soit en parlant ou en pensant. Mais de toute façon, on va revenir, on va sécuriser les angoisses métaphysiques de la nature humaine. C'est une tentative qu'on fait après coup de rationaliser le chaos, parce que c'est ça notre plus grande angoisse. Qu'est-ce que sera demain? Qu'est-ce que sera l'instant d'après? On ne le sait pas. Le football, ça décuple ce genre d'interrogation. Après, le football, c'est qu'un jeu, hein. C'est ça qui est super. On ne joue pas notre vie, c'est pas la guerre, c'est pas...
Après, il y a une spécificité, chérie, ce qu'il faut arriver à penser, c'est quelle est la spécificité dans ce sport-là qui fait qu'il a cette puissance métaphorique. C'est-à-dire qu'il a une énorme puissance métaphorique qu'ont pas les autres sports. Et une partie de sa universalité vient pas évidemment de la simplicité de ses règles, mais au nom de cette simplicité-là, cette énorme puissance métaphorique, tu parles d'humilité, David, il y a d'humilité au sens de celui qui le regarde, mais aussi de celui qui joue, c'est-à-dire que la part d'imprévu est suffisamment importante pour annuler le rapport de force. C'est-à-dire que tu peux être nul, mais si tu défends bien et tu gagnes 1-0, tu as gagné. C'est-à-dire que c'est un des rares sports où alors, c'est pas valable tout le temps, et c'est pour ça que moi, je parle de contingence, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout une régularité. Manchester City va finir par être champion. Voilà. Mais sur un match, compte tenu du fait que ce soit un sport à score faible, tu as cette possibilité de laisser une place à l'imprévu qui, à ce moment-là, va résoudre comme une espèce de message ultra subversif. C'est pour ça que les communistes aiment bien, les cocos aiment bien le football sur ce truc-là. Ils s'amusent à défendre les plus petits. C'est que on va avoir l'illusion, parce que tout ça est une illusion, qu'on peut vaincre un rapport de force.
On va jouer avec les contingences. C'est ça qu'il y a de bien dans le foot. On joue avec les contingences et après coup, on va s'amuser, on va tenter de l'expliquer, de le rationaliser.
Tu vois, l'Ajax de 2019, c'est ça. L'Ajax 2019, c'est tout à coup une irruption.
Voilà, c'est ça.
Une perle, tout à coup une perle.
Ouais.
Non, mais il y a ce côté irrationnel qui est, attendez, des Toto Skidachi. Je me fais des résumés.
David Platt.
Exactement. Ça dure une heure. Moi, c'est ma première Coupe du Monde. Toto Skidachi, c'était absolument invraisemblable. Ouais. Au-delà de l'épopée des lions indomptables, Toto Skidachi, c'est quelqu'un qui n'a pas jamais forcément, je parle sous ton contrôle, shérif, mais était titulaire en Italie, qui a écumé beaucoup de gros clubs italiens, mais qui n'a jamais été titulaire. Et il commence en dernier attaquant. Viali ne joue quasiment pas, en fait. Un joueur du calibre de Viali, qui était avec Mancini, en fait, l'attaque de la Samp, qui était une des meilleures équipes d'Italie et d'Europe, qui va finir par perdre en finale de la C1 contre le Barça, ne joue, et c'est Toto Skidachi qui rentre et qui marque à tous nos auditeurs, en fait, qui ne sont pas familiers avec cette compétition, juste taper Toto Skidachi, Italie 90. C'est-à-dire que sur une compétition, c'est un joueur qui se transcende complètement. Oleg Salenko, c'est-à-dire qu'un joueur qui a joué dans des tôles de second rang en Espagne et qui finit par mettre un quintuplé en fait contre le Cameroun. Mais Skidachi, c'est encore plus impressionnant dans la régularité des performances. C'est-à-dire qu'il a été décisif à absolument tous les matchs de cette Coupe du Monde.
Et il n'a rien fait avant, rien fait après.
On a fini par le réintégrer dans la normalité. Tu vois ce que je veux dire? On ne l'a pas vu venir, personne ne l'a vu venir. Il a fait un coup d'éclat magistral en 90 et tout de suite, dans toujours ce désir de rationaliser le chaos, on l'a intégré à la normalité.
C'est la force du récit.
Tout à fait.
C'est la force du langage. Ce que tu appelles la rationalité, en fait, c'est le langage. C'est-à-dire que le langage intervient pour mettre ça en syntaxe, en grammaire. Et donc, chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement,
on parle d'un récit
dont on parle. En fait, le récit sportif, je pense, est un récit non narratif en réalité. C'est un récit qui n'est plus de l'ordre de la fiction, mais qui est un récit en tant que tel, qui a sa propre manière. Effectivement, cette rationalité rétrospective que tu décris, Shérif, c'est exactement le propre du sport. C'est-à-dire que c'est pas une aventure quand vous prenez un livre, il est déjà écrit. C'est déjà fait à la fin. Non, c'est une sorte de livre qui se lirait à l'envers. Et c'est une autre forme de récit.
Mais Thibaut, qui est-ce qui l'écrit ce récit? Parce que, tu vois, pour qu'il fasse trace dans l'histoire, il faut qu'il soit narré, il faut qu'il soit entendu et redit. Est-ce que... comment ça se structure en fait? C'est d'abord les acteurs, donc les footballeurs, le président, c'est les supporters, c'est les journalistes.
C'est la structure de la compétition. fondamentalement, le sport, ce sont des compétitions. Le match amical, d'ailleurs, on le dit, c'est pas vraiment du sport. On regarde à peine. C'est vraiment la compétition. Et même en compétition, c'est l'inflation de compétition, sans arrêt, en fait. La compétition et deux, le journalisme. C'est le journalisme qui, lui, la compétition pour les résultats et le journalisme pour le commentaire. Et c'est le commentaire qui constitue le récit sportif. C'est pour ça qu'il est fondamental. Et notamment, les journalistes sont à la naissance de beaucoup de compétitions. Ce sont eux qui narrent les récits. Ce sont eux qui. Mais depuis toujours, je veux dire, vous disiez l'Iliade, il y a une compétition sportive en plein milieu de l'Iliade. Les Jeux Olympiques sont à ce moment-là et c'est raconté par Homère. Ça n'a de valeur que parce que c'est raconté.
Thibaut, la Super League n'est pas un projet de journaliste, c'est un projet de président de club.
La Super League, non. La Super League, non. Mais
après, elle est là, la disruption.
Ouais, enfin, la Champions League aussi, la Champions League telle qu'elle est maintenant.
Oui, bien sûr.
Mais ça change effectivement la nature. On voit bien que ça change la nature de quelque chose, ce qu'on appelle le foot business. On partait du principe que le journaliste, étant un amateur, un critique, il veut la même chose en quelque sorte que le public. Le président de club ne veut plus la même chose que le public. L'intérêt change à ce moment-là. Et effectivement, c'est ce qui fait qu'il y a déjà eu ce projet de Super League. Toute la question de l'omniprésence des présidents de club, de la naissance de l'ECA, etc., est liée à cette prise de pouvoir par les présidents du récit des clubs.
Oui, c'est ça. Des clubs.
Ouais. Et on le voit d'ailleurs maintenant, ils ont tous leurs propres médias, ils ont compris que l'actif du club, c'était son narratif.
Leurs propres influenceurs, leurs propres relais, non, mais leurs propres journalistes, parce qu'on voit que quand on suit des clubs, qu'il y a des journalistes qui sont orientés en fait par la ligne du club. Non, t'as raison.
Tu vois que, comment dire, les Coupes d'Europe, elles sont faites par des journalistes qui viennent de l'écrit, de l'épopée, de la transmission. De la geste, de l'héroïsme. Et tu vois qu'avec la Super League, c'est les présidents, on est passé à l'ère de l'image.
Bien sûr.
Comme tu dis,
le narratif est tellement important. Voilà, regarde, on a à la tête d'un des plus grands clubs français, l'Olympique Lyonnais, on a un journaliste.
Laurent Prudhomme.
On a un journaliste. Enfin, c'est Laurent Prudhomme, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé là pour ses qualités managériales, financières, sportives. C'est parce que l'image de John Textor et du projet Textor était tellement négatif qu'on a mis un journaliste en haut de l'organigramme, de la pyramide, justement, pour aiguiller, pour gérer ce narratif, en fait. C'est-à-dire que faire savoir, ça devient plus important dans le football que savoir-faire, quasiment.
Non, mais alors attention, il faut faire une distinction entre ce qu'est le narratif, le récit épique de la communication. C'est-à-dire, justement, celle qui va organiser le futur, celle qui va organiser la vision. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le récit non-narratif du journalisme, c'est qu'il est lié, il convoque en fait des mythes, il convoque des représentations sociales qui ne sont pas propres au club. Le problème du club, c'est qu'il veut tout ramener à lui-même. Mais quand tu parles de David contre Goliath, quand tu parles de tous les grands mythes sportifs, des duels Cain et Abel, du traître, et ça, ce sont des figures narratives vieilles comme l'histoire, comme toutes les histoires en réalité. Et c'est à ce moment-là que ce qu'était au départ simplement une succession de résultats, une succession d'épreuves, devient une histoire qu'on réintègre dans, si je puis dire, le folklore, mais ce serait méchant, en tout cas l'anthropologie ou dans le bain culturel occidental, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on rattrape les vieux mythes. Et moi, mon boulot, c'est ça. C'est juste de dire, voilà, à quel moment le football connecte avec les humanités occidentales, avec la culture occidentale.
D'ailleurs, il y a des expressions qui sont dans le vocabulaire footballistique français qui sont de l'ordre du mythe. Le cendrillon, le petit pousset de la Coupe de France, l'ogre de la Coupe de France.
Mais c'est assez amusant. Qui l'emploie ? Qui l'emploie ? Le journaliste.
Mais du coup, moi, j'ai une autre question pour vous trois. Est-ce que vous n'avez pas justement peur que ce récit soit en train d'être déformé par les communicants et que le journaliste qui est relégué au second plan, là, par exemple, quand on repense à Rennes, vous savez, tout le monde emploie le terme d'épopée parce qu'ils ont fait une fois un huitième ou quart de finale, je ne sais plus, en Coupe d'Europe. En fait, il y a une réappropriation des termes dans le langage courant qui fait que on ne sait plus quelle est la véracité du récit et ce qui s'est réellement passé.
Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Je vais répondre de façon très succincte. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense que tant que tu auras des gens comme le Comex, en fait, pour déconstruire en fait toute la communication, je pense que moi, je fais confiance aussi assez régulièrement à l'intelligence collective. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont pas dupes. Moi, je suis supporter d'un club où le narratif, la communication a pris une part prépondérante en fait ces dernières. Et petit à petit, en fait, les gens, je pense, ne sont pas dupes. Et au contraire, ça va nourrir les gazettes, ça va donner l'opportunité à des gens qui réfléchissent peut-être un peu plus de déconstruire tout ça. Donc non, à chaque mot en fait il y a un remède et c'est le remède qu'il faut mettre en œuvre, moi je pense.
Non, bah juste un mot là-dessus, et on peut pas faire l'économie d'une réflexion si on réfléchit au destin du football et à sa valorisation et à son image, enfin à son narratif. On peut pas faire une économie d'une réflexion sur le langage. C'est-à-dire qu'on voit bien que moi, ce qui me préoccupe, et en même temps, j'ai pas encore l'avis définitif, c'est l'omniprésence maintenant des réseaux, où chacun se fait un peu sa petite narration dans son coin, chacun se fait son petit récit, mais en même temps, ça, c'est le premier réflexe, qui est le réflexe un peu conservateur, à dire, bon, chacun fait son truc dans son coin, où ça détricote le récit collectif, mais en même temps, quand tu regardes ce que chacun dit, finalement, chacun dit la même chose.
C'est
très moutonnier et très conformiste en réalité. Donc c'est pas en soi pas véritablement un danger. Ce qui me préoccupe plus, c'est effectivement le niveau culturel des journalistes, parce que le journaliste sportif exige un très haut niveau de culture, de culture générale. Or c'est devenu un métier de spécialiste, et à force d'être un métier de spécialiste, on oublie ce qu'est le sens même de ce sport-là et de ce jeu-là, qui est l'appel de l'aventure.
Ouais, mais j'ai peur que les chroniqueurs, moi, inondent les et étouffent les journalistes.
Non, mais Thibaut, une fois de plus, je vais revenir sur le parallèle. Les premières Coupes d'Europe, elles ont été faites par des journalistes de l'écrit. Et là, on est passé à l'ère de l'image. Et l'ère de l'image se passe de culture, elle se passe de... Non, parce qu'on ressasse l'image. On la commande pas, on la ressasse. Parce que de toute façon, tu l'as déjà vu. Le match du dimanche soir, on l'a tous vu. Le match du samedi après-midi, on l'a tous vu. On est capable de se faire sa propre opinion. Et c'est... voilà, l'événement est passé. Et ensuite, on dissèque, on sort la palette. Et ce qui n'est pas inintéressant. Mais...
On perd un truc qui est le...
On perd un truc.
L'objet culturel.
Mais l'objet culturel, une fois de plus, c'est la civilisation de l'écrit, la civilisation de l'image. C'est pas la même chose. C'est pas la même approche. C'est pas la même culture. C'est pas le même discours. C'est pas les mêmes mots. Tu vois, je reviens là-dessus. Les Coupes d'Europe, c'était des journalistes de l'écrit. Ils avaient besoin des Coupes d'Europe pour élargir un peu leur domaine mythologique, héroïque et tout.
Et commercial.
Et commercial, sans aucun doute. Là, on est arrivé avec la Super League. On en arrive. Alors, c'est plus des journalistes, c'est plus des gens de l'écrit, c'est plus des gens de l'intelligence et de l'échange. C'est des gens qui sont clairement sur de la communication, sur du business et que du business. Et en fait, qui n'ont pas besoin de mots. Ce qu'ils ont besoin, c'est comme en NBA, c'est la bague, le trophée. Le vainqueur, et puis ça s'arrête là. Et de toute façon, c'est aussi ce que le public aujourd'hui recherche. Hein, je veux dire, moi, je pense que les esprits sont mûrs déjà pour la Super League. Faut pas se mentir. C'est bon, on résiste. Ok, d'accord. Il y a l'esprit sportif qui va disparaître. Enfin, je sais pas. Mais je pense que les esprits sont déjà mûrs. Pour la Super League, avec les grands qui s'affrontent, avec un vainqueur à l'arrivée, comme la NBA en fait. La NBA a parfaitement rationalisé les imaginaires et voilà, on vit bien. On n'a plus besoin de mots, si tu veux. On n'a plus besoin de mots. On a des highlights, ça, les réseaux sociaux. Ça suffit amplement. Il nous faut juste une compétition sur laquelle on va se palucher, sur laquelle on va se brancher, sur laquelle on va se connecter. Et puis voilà, quoi. Il y aura les résultats, le champion. Mais On a besoin de toute façon de plus d'adrénaline. Oui, je pense que les esprits sont mûrs pour qu'on ait un Chelsea-Barça ou un Bayern-Juventus tous les week-ends. Ouais. Pas encore, c'est peut-être pas encore mûr, mais je pense que dans les esprits, on y est déjà. Et on n'aura plus besoin de mythologie. Et puis de toute façon, la Super League va rationaliser le temps de cerveau disponible. On aura une compétition, les autres compétitions, elles passeront peut-être au second plan. Et puis de toute façon, il y a un nouveau mode de culture des nouveaux modes de consommation de la culture, du sport. Donc voilà. Les imaginaires, les nouveaux imaginaires, on les trouvera autre part. Peut-être dans les séries télé qui cartonnent toujours autant et qui prennent un peu plus de place sur le merveilleux des compétitions de foot. J'ai l'impression.
Très bien. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Chérif. Merci à tous, les gars, pour cette nouvelle émission, ce 24e épisode du Comex. On clôture, comme d'habitude, avec nos petits trocos. Thibaut, je te laisse commencer.
Alors oui, j'ai hésité beaucoup.
Tu vas être obligé de revenir la semaine prochaine.
Non, et donc ce sera une reco hors foot. David, je te l'ai envoyé. Certainement, ça va me valoir des remarques, mais je m'en fous. Certainement, l'émission radio qui m'a le plus ému de ces 10 dernières années. Une émission complètement folle sur la poésie. Un dialogue dans le réplique de cette semaine, de samedi dernier, entre Finkielkraut et Sylvain Tesson. Vivre avec la poésie, qui démarre sur le F de Peggy, et qui est une méditation sur la beauté du réel, sur la beauté de la nature, la beauté du réel. Et je crois que peut-être il y a un peu de football là-dedans, si vous l'écoutez, ou peut-être il y a cette idée de... On parlait tout à l'heure de ce que Galano appelle les mendiants du beau jeu, les mendiants du beau, guetter la perle irrégulière, guetter l'Ajax 2019, c'est guetter la beauté d'une falaise, guetter tout à coup l'accident météorologique qui va faire apparaître le beau. Et je pense qu'il faut s'alimenter, il faut éduquer sa sensibilité. Et pour éduquer sa sensibilité, il faut aussi lire de la poésie, et il faut surtout l'entendre. Et là, vous entendrez, même si vous ne connaissez rien à tout ça, ou si vous connaissez, vous retrouverez des auteurs connus, et si vous ne connaissez rien à tout ça, laissez-vous porter, et laissez-vous oublier tout ce qu'on vous a raconté sur ces deux personnages-là, et juste écouter les textes. Ils lisent des textes. C'est extraordinaire, extraordinaire.
Très bien, je note, tu as éveillé ma curiosité, ça a l'air très intéressant. David.
Alors moi je suis beaucoup plus terre à terre, mais j'ai trouvé le reportage de l'équipe Explore sur Otani, le joueur de baseball japonais qui est une immense star et qui pour les profanes est un joueur de baseball qui est capable de pitcher, donc de lancer et de frapper, d'être à la batte. Et il le fait également bien, donc c'est le meilleur joueur de la ligue. Il y a en plus un petit soupçon de scandale, car son traducteur a été accusé de lui avoir dérobé plusieurs millions de dollars pour parier, ce qui est absolument interdit aux États-Unis. Donc voilà, ça. Thibaut parlait d'épopée, quand il vient d'une très petite ville du Japon, et c'est désormais la star d'une des équipes les plus populaires avec les Yankees, les Los Angeles Dodgers, ancienne propriété d'ailleurs, enfin ancien club de Frank McCourt. Donc voilà, il y a un lien aussi avec le foot et l'article est très 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 réussi.
Parfait. Chérif ?
Alors,
tu as préparé ta reco pour cette fois.
Ouais, tu vois, ce que si on prendra pas de cours. Non, bah juste un film. Alors c'est Missouri Breaks. C'est un western de 1976 réalisé par Arthur Penn qui avait fait Bonnie and Clyde. C'est un film que je voulais voir depuis longtemps. J'avais entendu parler, je ne l'ai pas vu. Alors, figurez-vous, il passe sur Arte gratuitement en replay. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et je vous le recommande parce que c'est les années 70. On déconstruit un peu le genre qui était le western. Alors, on n'est plus du tout à l'époque de John Wayne avec que des héros positifs. C'est que des fripouilles, des voleurs de chevaux et des prédateurs, enfin toute la violence américaine, avec Marlon Brando complètement siphonné, tueur impitoyable, c'est voilà, Jack Nicholson, et j'ai oublié celui qui était dans Paris, Texas, Harry Dean Stanton. Voilà, non, c'est une épopée, c'est foutraque, ça ressemble à rien, c'est à la fois l'Amérique désabusée et puis la grande violence quand même. Mais ça se regarde. C'est une certaine poésie, tiens. Tu vois, Thibaut, c'est... Il y a un certain lyrisme. Alors que c'est un film qui est pratiquement raté, en fait. Mais bon, ça c'est personnel. Mais non, mais c'est...
C'est bien vendu, en tout cas.
C'est pas mal. Voilà, j'ai bien aimé.
Alex.
Ouais, j'en ai deux. Une sport et une rien à voir. C'est pour compléter votre discussion de la semaine dernière sur Céline. Je conseille à tout le monde d'aller voir La Grande Librairie avec Fabrice Lucchini et évidemment Philippe Solers, qui décrypte un peu le mythe Céline. Alors, on peut détester Fabrice Lucchini.
Il est pas mort, Solers.
Si, si, mais c'est un épisode qui date de 2016. Qui date de 2016.
Il faut quand même le préciser. Ouais.
Oui, oui, pardon.
Pardon. Il est de retour sur l'antenne.
Et oui, on peut détester Lucchini, mais je pense que c'est la personne sur Terre qui dit le mieux Céline. Et comme Céline est un texte qui se dit, enfin, du moins qui se rapproche du langage parlé, je recommande à tout le monde de voilà, pour se faire un avis, de regarder ça. Et ma deuxième, c'est on a beaucoup parlé de NBA, on a fait des liens avec le foot, c'est le play-in tournament qui va commencer là le 17 avril. C'est donc les équipes qui ont fini entre la 7e et la 10e place de chaque conférence qui vont s'affronter pour gratter une place au play-off. On aura donc à l'ouest des matchs de ouf entre les Pelicans et les Lakers, les Kings et les Warriors, et voilà. Je recommande à tout le monde de regarder ça si vous n'avez pas d'avis sur la NBA, si vous n'avez jamais maté la NBA, c'est une très belle approche.
C'est une excellente idée, ce play-in, à ouais. appliquer dans le foot. C'est une superbe idée. J'ai pas aimé le tournoi de mi-saison. Enfin,
c'était
ça n'avait aucun intérêt. Oui.
Bah, même les joueurs disaient que c'était pour l'oseille, il n'y a rien de plus. Donc,
c'est génial.
Et je vais clôturer cet épisode avec une reco. Je ne sais pas si on l'a déjà faite. Peut-être, Thibaut, tu l'avais déjà faite, mais le podcast Le Code a changé. De oui, évidemment, tu l'as déjà fait
la porte de l'émission. Vous avez de la porte, ouais. Enfin, qu'on invite un jour,
ouais. Ouais. Tu l'avais déjà fait, cette reco? Je me rappelle plus.
Oui, il y a longtemps, mais
il y a longtemps, bah voilà, bah je la refais.
J'avais participé d'ailleurs dans le code à changer.
Ah ouais,
sur le football et les jeux vidéo. C'est
bon. Ah, je l'ai même pas vu passer celui-là, très bien. Voilà, bah reco, écoutez cet épisode avec Thibaut. Mais donc, le code a changé, qui était évidemment un podcast de Xavier Delaporte qui explique comment les technologies changent nos vies aujourd'hui. Et moi, je suis tombé sur un épisode il y a pas longtemps qui s'appelle Les Dames de l'algorithme, qui explique comment un groupe d'annotateurs entraîne un programme d'intelligence artificielle qui est programmé pour faire de l'anonymisation automatique et qui en dit beaucoup sur notre rapport à l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'il pourrait évoluer dans les prochaines années. Je n'en dis pas plus, l'épisode est très intéressant et je vous invite à aller l'écouter.
C'est particulièrement bien raconté, bien écrit, bien
produit. Ouais, bien, bah, comme tous les épisodes.
J'ai fait le truc sur l'IA, c'était génial, absolument génial.
Comme tous les épisodes de France Inter de manière globale. Comme ça me permet de remettre une petite couche sur Céline, ce qui est vraiment bien, je confirme, après avoir écouté.
Ouais, j'en suis à 3 heures d'écoute.
Ouais, donc épisode 3.
Bah, écoutez le réplique aussi de ouais. Samy.
Très bien. Parfait.
Après, je vous ferai mon imitation de Sylvain Tesson, mais je vais pas.
Bah, ouais. Très bien.
Je suis pas payé, moi.
Tu nous la feras en off. Tu nous la feras en off parce que je suis pas sûr qu'on s'en sorte bien sinon dans cette histoire. Bon, messieurs, merci pour ce nouvel épisode du Comex. J'invite tout le monde, évidemment, dans un premier temps, évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner ou à aller acheter le dernier numéro de la revue de l'After sur les agents, les vrais maîtres du jeu. Et à côté de ça, si vous pouvez. Participez sur notre cagnotte et le asso pour soutenir notre média 11e art. Ou alors, vous pouvez aussi le faire en mettant des pouces, en likant, en partageant, en commentant. C'est hyper important pour nous et pour notre référencement. Messieurs, merci à tous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Comex. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao à tous.
Bonsoir.